Nous pourrions prendre dans la Bible, dans le premier livre des rois, au chapitre 18, c'est donc l'histoire d'Élie. Faut-il dire quelques mots d'introduction? Au moment où Élie vit dans le royaume d'Israël, à cette époque, il y a deux royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Le roi qui gouverne sur le royaume du nord est un roi qui a abandonné Dieu, en grande partie à cause de sa femme d'ailleurs, qui est une païenne. Et le peuple s'est tout à fait éloigné de Dieu. Et alors se dresse dans ce royaume du nord Élie le prophète qui va essayer de ramener le peuple à Dieu, et notamment lors de cette fameuse scène que l'on raconte souvent, Élie sur le mont Carmel. Nous voulons prendre donc à partir du chapitre 18 et au verset 20. De nouveau, une histoire de feu. Comme Moïse et le buisson ardent. Et vous me direz que les choix que j'ai faits sur les personnages de l'Ancien Testament étaient assez orientés. J'avoue que je n'avais pas du tout pensé à cela avant de choisir Joseph, Moïse et Élie. Je peux d'ailleurs même vous dire pourquoi j'ai fait ce choix, parce que j'ai été amené à faire des notes bibliques pour la Ligue sur Joseph. Alors j'avais un peu réfléchi à ce personnage, alors j'ai pris tout naturellement Joseph. Si on m'a demandé ces sujets, les personnages de l'Ancien Testament, c'est Gérard Kunz qui m'a demandé ça, parce que j'avais une fois parlé là-dessus à Emmaüs, et puis il avait entendu les bandes. Alors j'ai repris Moïse que j'avais fait autrefois, et puis Élie, j'avais parlé à Vevey lors d'une série, alors j'ai simplement repris ça, mais je n'avais pas aucun lien entre les trois, et puis en réfléchissant, je me dis, mais enfin, c'est de nouveau une histoire de feu, et c'est peut-être très bien comme cela. Car ce dont nous avons besoin, c'est peut-être précisément le feu. D'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure, un baptisme de feu. Et la foi d'Élie, une foi agissante aujourd'hui, la foi d'Élie, ce n'était pas une vague croyance, ce n'était pas une petite foi bien gentille, héritée de son père et de sa mère, avec laquelle il a essayé de vivre. Cette foi l'a amené à une lutte, à un combat. Et pour cela, il a fallu justement que, dans cette lutte et dans ce combat, il y ait le feu qui descende. Et c'est pour cela aussi qu'Élie est un homme comme nous, comme dit l'apôtre Jacques. Il est dit, Élie le dit lui-même, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. » Et il y a 450 prophètes de Baal, le dieu païen. Il est tout seul face à une immense foule de païens et de dieux païens, et un roi hostile et un peuple indifférent ou versatile. Et c'est peut-être la situation que nous connaissons, certains d'entre nous. Seul dans une faculté, seul dans une classe, seul peut-être dans une université, face à tout un auditoire qui s'en fiche éperdument ou qui est carrément hostile. Mais même si ce n'est pas un câble qui gouverne le pays et qui a la liberté, en fait, celui qui est étudiant à Vincennes ou à Nanterre ou dans des facultés plus, je dirais, moins orientées, il a souvent l'impression d'être seul. Et si on ne veut pas être à frappé par tout le flot qui tombe sur nous, il faut que notre foi soit une foi armée, soit une foi lutte. Il faut que nous sachions, je dirais, bouter le feu. Mais quel est-il ce feu dont il est question ici? Il y a une première différence avec le récit d'hier de Moïse et du buisson ardent. Il était précisé hier que le buisson ne se consumait pas. Et puis ici, il nous est dit, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Sauf que le but d'ailleurs de ces deux récits est un but tout à fait différent. Dieu voulait montrer par cet événement du buisson ardent, Dieu voulait montrer qui il était, ce Dieu de vie. Et je crois qu'ici, Dieu veut montrer à Élie, à tout le peuple, les conséquences pour nous-mêmes. Oui, Dieu est un Dieu vivant, mais il faut que notre vie soit apportée en sacrifice. C'est un Dieu qui consume. Et ce feu du ciel, vous le savez, on l'a déjà dit, est un signe de l'esprit. Et ce feu ici, c'est pas une petite chaufferette, hein. Autrefois, quand les temples n'étaient pas chauffés, on venait au culte avec sa chaufferette qu'on mettait sous ses pieds. On en avait bien besoin. Il y a quelqu'un ici qui vient de La Chaux-de-Fonds, qui est une ville donc en Suisse, à 1000 mètres d'altitude. Un pasteur me disait que son grand-père, qui était aussi pasteur, avait été pasteur de planchette au-dessus de La Chaux-de-Fonds, dans les montagnes donc, et qu'il avait vu le dimanche matin, pendant le culte, la glace se formait sur les coupes de la Sainte-Seine, sur le vin, dans les coupes, sur le vin de la Sainte-Seine, pendant le culte. Bien, quand il se passait ceci dans les cultes autrefois, il n'y avait aucun chauffage quelconque, alors on comprend que les gens venaient avec des manteaux, avec des fringues de robe, qui mettaient la chaufferette et dessus, la robe par-dessus. Alors, on était bien au chaud et bien à l'abri pendant que le pasteur parlait. Mais le feu dont il est question ici, c'était pas cette petite chaufferette pour réchauffer un peu, pour qu'on se sente un petit peu mieux, pour qu'on ait un peu plus chaud, pour que l'ambiance soit un peu plus chaleureuse, pour qu'on se sente un peu mieux, que l'ambiance de l'église soit bien gentille. C'est pas un petit feu tout doux et tout gentil et tout mignon. C'est pas non plus, je dirais, un feu thermostat qu'on peut régler à sa convenance. On dit, Seigneur, d'accord, il est ici, bâtis-moi de feu, c'est vrai, dans l'université, je suis tout seul, je suis paumé, et il faut avoir un témoignage qui est un intact, alors bâtis-moi de feu, mais Seigneur, ça fasse pas trop de bruit quand même. Je sois pas obligé de lever les mains en priant, parce qu'alors vraiment ça fait exalter. Ou bien de taper les mains. Qu'est-ce qu'il dirait mon pasteur? Lui d'abord, on n'a jamais fait ça dans ma famille. Seigneur, oui, qu'il y ait du feu, mais que ce soit modéré. Et on est souvent comme Élie. On dit, Seigneur, ton feu descende. Puis en même temps, on verse de l'eau. Pour surtout qu'on puisse maîtriser ce feu. Et ce feu, Élie, je dirais, on ne le maîtrise pas, il consume tout. Et on ne peut pas dire à Dieu, donne-moi ce témoignage dans mon université qui agisse, qui oblige, je dirais, mes camarades à rendre gloire à Dieu, mais à certaines conditions. On ne peut que dire à Dieu, oui alors, moi je suis prêt à ce que tu consumes tout. On verra tout à l'heure ce que ça veut dire. Et puis ce feu-là d'Élie sur le mont Carmel, c'est pas non plus un feu d'artifice. Une sorte de grande gerbe là qui épate tout le monde, mais qui n'a ni puissance ni durée. Et d'ailleurs, il y a un danger, et il faut le dire très loyalement, ça a déjà été dit, mais il y a un danger d'une recherche dans du feu de l'esprit. Il y a un chant là, ce que je veux, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Parce qu'il y aurait le danger justement de d'épater. Quelqu'un, un pasteur, parlait du style anglo-claxon. Et c'est un peu ça. Hein. On veut quelque chose là qui soit. Je m'excuse, hein, des Anglais parmi nous, mais. On veut quelque chose là qui fasse de l'esbrouf. Ben non, c'est pas un feu d'artifice. C'est en tout cas pas cela chez lui. Ce feu consume. Et consume quoi? Vous avez remarqué, Élie, au verset 30, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Autrement dit, Élie rétablit l'autel des sacrifices que dans le paganisme qui était revenu dans le peuple on avait abandonné. Et au fond, sur cet autel, c'est le peuple lui-même, il prend 12 pierres, c'est le peuple lui-même. Et par conséquent, lui aussi, Élie, qu'il met sur l'autel. Et pour que le feu de l'esprit agisse, je crois qu'il faut rétablir l'autel des sacrifices. On ne peut pas demander à Dieu ta puissance, un témoignage qui soit vécu une fois, qui soit agissante, si on n'est pas prêt de se mettre soi-même, de s'offrir soi-même en sacrifice. Et si on pense à l'épître aux Romains, l'apôtre Paul, après tout un long développement doctrinal, et avant de parler du corps de Christ et des dons du Saint-Esprit dans ce chapitre 12, la première chose qu'il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et je crois que c'est la première chose. Et on ne peut pas demander à Dieu, je dirais comme on le voyait hier, soit une plénitude de l'esprit, ou quelques termes qu'on appelle cela, sans être prêt d'abord à offrir nos corps, à nous offrir nous-mêmes sur cet autel, et à ce que Dieu consume. C'est ce qu'avait fait Élie. Sa vie, il l'avait offerte. Et nous le voyons dans les chapitres précédents de trois manières. On ne va pas reprendre tout le chapitre 17, mais vous pourrez le lire après. Dieu lui avait dit d'abord, au chapitre 17, versets 2 et 3, quelqu'un, on va lire la suite, on était resté où?
Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. »
Et verset 4 encore.
« Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. »
Voilà. Dieu dit à Élie, allez, va dans le désert. Cache-toi. Dieu lui demande à lui, je dirais, ce prophète qu'on imagine au geste enflammé, à l'œil de feu, ce prophète des foules, il lui dit, va dans le désert, tout seul, là-bas. Tu vas aller vivre avec personne. Les seuls témoins de ton obéissance vont être les corbeaux. Et il s'en va tout seul. Et il obéit à ce que Dieu lui ordonne. Et en effet, il se fait nourrir là par les corbeaux. Savons-nous obéir quand il n'y a aucun témoin de notre obéissance? Savons-nous être honnêtes, fidèles, vrais, quand il n'y a aucun témoin, quand personne ne le saura, sinon Dieu? Parce que très souvent, hein, on dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. C'est pas dans la Bible ça, mais c'est la sagesse populaire. Savons-nous être justement honnêtes, vrais? Savons-nous être obéissants à Dieu dans notre vie et jusque dans les derniers domaines quand personne ne le sait? Savons-nous conduire? On parlait hier de conduite. Savons-nous conduire? Je dirais notre voiture, simplement, sans parler de la conduite intérieure et personnelle. Savons-nous conduire une voiture normalement, même quand nous savons qu'il n'y aura pas de gendarmes? Il faut se recommander aussi. Élie, lui, il accepte d'aller au désert. Personne ne saura rien. Il y va. Puis Dieu lui demande une deuxième chose. Les versets 8 et 9. Sarepta, c'était une ville au nord, près de Sidon. Or, Sidon, c'est la ville d'où venait Jézabel, l'ennemi mortel d'Élie, celle qui avait mis sa tête à prix, la femme païenne qui avait fait tourner tout le royaume d'Israël dans le paganisme, qui avait instauré le culte de Baal et qui alimentait la caisse de Baal, qui soutenait de sa puissance et de ses deniers tous ces prophètes de Baal, ennemis d'Élie. C'est à cause d'elle qu'il avait dû s'enfuir. Puis voilà que Dieu lui dit, ben c'est justement là, à l'endroit d'où Jézabel est originaire, c'est là que tu vas aller, dans cette ville païenne. On aurait compris que Élie dit, non Seigneur, vraiment là, je peux quand même pas y aller, c'est pas possible. Mais il accepte même d'aller là-bas. Il dirait en toute humilité, sans parti pris. Il faut une certaine dose d'humilité pour accepter cela. Puis enfin, Dieu lui demande une troisième chose, et c'est presque un ordre croissant de difficulté. Au chapitre 18, les versets 1 et 2. Akab, c'était donc le roi. Le roi qui avait ordonné qu'Élie soit mis à mort. Et tout ce que Dieu lui demande à Élie, c'est rien de moins que de se jeter dans la gueule du loup. Et là, il faut une certaine dose de courage. Et voilà cet homme Élie, dont la vie est offerte en sacrifice. Dieu lui demande un certain nombre de choses qui non seulement ne lui sont pas faciles, mais qui sont contraires à tout ce que normalement il aurait aimé évangéliser les foules. On lui demande d'aller dans le désert. Il aurait aimé lutter contre le paganisme. On lui demande de vivre au crochet d'une femme païenne dans la ville même de Jézabel. Et puis pour finir, on lui demande de se présenter devant Akab, et il pourrait légitimement penser que c'est qu'il va y donner sa vie. Mais Élie a mis sur l'autel ses ambitions et il accepte d'aller dans le désert. et il a mis sur l'autel son orgueil d'israélite pieux. Et il accepte d'aller à Sarepta et d'être nourri par une femme païenne. Et il a mis sur l'autel même sa vie. Et il accepte de rencontrer Akab, quoi qu'il arrive. Alors je crois que le feu, il est lié à cela, hein. Comme on l'a déjà vu. Le Saint-Esprit, il est lié à la croix. Et on ne peut pas faire l'économie. Et notre frère Jukun a bien dit hier, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de truc. Le Saint-Esprit, il est lié à la croix. Et demander la plénitude, demander l'effusion, mais tout, je dirais, peu importe le nom qu'on donne à ce terme, demander la puissance, sans la croix, c'est une impossibilité. Et Élie a pu vivre le Carmel parce qu'auparavant, il a vécu l'obéissance. Mais alors, Élie peut ensuite, c'est vrai, invoquer le feu. Et tout ce qu'il a vécu antérieurement montre que non, c'est ni un feu d'artifice pour épater la galerie, ni un petit machin comme ça pour se réchauffer l'âme tranquillement au coin du feu. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et il y a appris à obéir. Calvin disait, j'offre mon cœur comme immolé. En fait, c'est ça. Alors, le résultat de tout cela, qu'est-ce que c'est? Verset 39, si quelqu'un veut le relire, le suivant.
Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu.
Voilà. C'est pas Élie qui est glorifié. Ils disent pas bravo Élie, t'es un champion. Alors ça, Élie, tu nous en as bougé un, quoi. Même pas, oh Élie, alors vraiment t'es le plus grand prophète. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est à Dieu que revient toute la gloire. Et c'est d'ailleurs parce que Calvin pouvait dire « j'offre mon cœur comme immolé », qu'il pouvait dire aussi « à Dieu seul la gloire ». Ce sont des choses qui vont ensemble. Parce que notre vie, nos ambitions et tout, ça c'est sur l'autel. C'est la gloire de Dieu que nous cherchons. Et Dieu, qui est un Dieu jaloux, non pas dans le sens d'un mari jaloux bien sûr, mais qui est un Dieu jaloux de sa gloire, qu'il ne partage avec personne, alors accepte de se glorifier et de consumer et de faire éclater sa gloire quand notre vie est sur l'autel. Mais si ce que nous cherchons, c'est en fait tout au fond de nous-mêmes, hein, dire oui Seigneur, donne-moi la plénitude du Saint-Esprit comme ça quand même, alors j'aurai un témoignage puis mes copains ils verront, hein, notre cœur il est tellement rebelle que c'est souvent ça qu'il y a au fond. Il ne faut pas s'étonner si rien ne se passe. Mais si notre vie est offerte en sacrifice, alors je crois que le feu du ciel descend. Et nous pourrions chanter comme une prière, ensuite nous poursuivrons. Est-ce que vous savez un petit chant, mais que je trouve très beau, qui est d'ailleurs un canon. Ô Dieu, nous t'adorons. Ô Dieu, nous t'adorons, prends nos vies en sacrifice. Vous connaissez? Ah ben c'est bien, on va chanter. Hein. Si vous ne savez pas, on l'apprendra. Ô Dieu, nous t'adorons, prends nos vies en sacrifice. Amen. Pourtant, quand on lit l'histoire d'Élie, un peu plus loin, après cette histoire du mont Carmel et de cette lutte avec les prophètes de Baal, On voit que ça n'a pas empêché Élie d'être profondément découragé. Et nous pourrions relire au chapitre 19 les deux premiers, à partir du début, là, jusqu'au verset 8, les huit premiers versets. En cela aussi, Élie nous ressemble étrangement. Nous sommes si souvent et si vite découragés. Et après une grande bénédiction, en descendant de la montagne, mais contrairement à la chanson, pas sur son cheval, mais alors vraiment à pied et plutôt découragé. Et je crois que ce serait une profonde erreur, comme une certaine prédication semble le faire croire ou certains témoignages, depuis que j'ai été rempli du Saint-Esprit, c'est fantastique, etc. Oui, je crois que Dieu a agi, bien sûr, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des moments difficiles, et qu'il y ait des moments de doute, et qu'il y ait des moments de remise en question. Et tout, la vie n'est pas un petit nuage rose. Il y a des l'opposition qui est là, et bien des problèmes restent. Et pour Élie, en tout cas, après cette action d'éclat, après avoir vu ce qu'il a vu, c'est presque étonnant de voir immédiatement après, Élie qui est même tellement découragé, qui dit « Seigneur, c'est tout juste, il ne va pas se jeter en bas du pont Bessières. » Enfin, je m'excuse pour les habitants de... D'ailleurs, Lausanne, c'est le pont où les gens... Ce suicide, il y en a parfois plusieurs par jour. Il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends ma vie, il a envie de mourir. Et souvent, n'est-ce pas, on a parfois envie de lâcher le manche après la cognée, on dit, oh, voilà, mais oui, j'étais béni, mais maintenant. Après des camps. Après des moments où on a reçu de grandes bénédictions, après, c'est souvent, je dirais, on a parlé des dons, après quand quelqu'un a reçu parler, on a reçu un don, ça, quelqu'un a dit, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était juste? Puis c'est moins merveilleux que tout ce que je pensais. Et on a envie de tout lâcher. Et alors Dieu, dans sa miséricorde, va réconforter son prophète. Et il va le faire de quatre manières différentes dans ce chapitre 19. Premièrement, il l'entraîne à Horeb. Où ça se trouve ça, Horeb? Comment? C'est un autre nom pour le Sinaï. Ce sont deux mots synonymes. Certains pensent peut-être que le Sinaï, c'est l'ensemble de la chaîne de montagnes, et Horeb, c'est la montagne sur laquelle Moïse est monté. C'est là que Dieu a donné la loi à Israël. Et je crois que c'est extrêmement intéressant. Après le feu du ciel, Dieu entraîne Élie vers l'alliance, là où il a établi son alliance avec le peuple. Il le ramène à la loi et au témoignage, dira plus tard Isaïe, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple, ni même pour Élie. L'esprit, on l'a vu, est lié à la croix, il est aussi lié à la parole de Dieu. Et c'est ce qu'Élie a besoin de réapprendre. On ne vit pas de Mont Carmel. On ne vit pas de descendre de feu du ciel comme ça en permanence. Dieu dit à Élie, oui, tu as besoin de persévérer, tu as vécu une grande chose, c'est vrai, il ne faut pas te décourager pour ça, maintenant il faut persévérer, alors hein, tu vas retourner à Horeb même, là où j'ai donné la loi. Et il le ramène donc là où il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire l'importance de l'écriture, l'importance de la parole de Dieu. C'est aussi ce que nous avons à vivre. On ne vit pas d'expérience, on vit de la parole de Dieu. Plusieurs parmi nous ont exprimé, sont dans la foi depuis pas très longtemps, il est d'autant plus important de s'enraciner dès le début dans ce qui est solide, c'est-à-dire la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes tous abonnés au lecteur de la Bible ? Il faut bien que je fasse ma petite réclame de la Bible. Mais est-ce qu'il y en a qui l'ont ici ? Moi, je ne l'ai pas parce que je l'ai donné le jour de mon départ. Et puis, de toute façon, je n'ai pas le lecteur français. Mais quand on débute dans la foi, et même quand on est plus avancé, hein, avoir un guide de lecture biblique. Peut-être c'est pour ça, j'invente, hein, mais c'est peut-être pour ça qu'Élie s'est paumé, parce qu'il n'avait pas de guide de lecture biblique. Et je crois que il est pour nous essentiel, que ce soit par la Bible ou par autre chose, après tout ça c'est secondaire, bien que la Bible soit utile, mais que nous apprenions à lire la Bible régulièrement, fidèlement. C'est ça qui va nous donner une structure, une épine dorsale, une armature spirituelle. Et c'est la première chose que Dieu fait avec son prophète. Et puis, on va continuer en lisant les versets 9 à 13. Voilà, la deuxième chose que Dieu va révélé à son prophète, ce sont sa douceur et sa patience. Il semble que Dieu fait faire à Élie l'expérience inverse du Carmel. Au Carmel, Dieu était dans le feu précisément. Et puis ici, il nous est dit, Dieu n'était pas dans le feu. Mais dans un murmure doux et léger. Et là encore, je reviens à ce que notre frère disait hier. Il y a des expériences spirituelles fracassantes, et puis il y a des expériences spirituelles toutes douces, légères, progressives. Et c'est peut-être pas pour rien que ces deux récits se suivent. Moi, je comprends Élie, après avoir vu le Carmel, il aurait voulu continuer. Puis après avoir esquiché tous les prophètes de Baal, on dit maintenant on va trucider les autres et puis on va aller ainsi de victoire en victoire. Puis Dieu lui dit, mais il n'y a pas que ça. Il va lui montrer que Dieu est aussi un Dieu doux et léger. Je crois que nous avons à comprendre cela. Il n'y a pas d'expérience passe-partout. Il n'y a pas de type. Voilà, est-ce que tu es converti? Alors d'abord, 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as rempli d'esprit? 1, 2, 3, 4. Est-ce que tu as fait, dirais, Dieu est souverain. Et Dieu va montrer aussi à Élie, mais je suis souverain. Je ne suis pas forcément toujours. Je ne suis pas obligé d'agir comme au Carmel. Et d'ailleurs, même le feu est au service de l'amour. Et pas seulement pour trucider les ennemis. Et Élie va montrer donc une nouvelle dimension, et Dieu va montrer une nouvelle dimension à Élie, au fond, l'amour, la puissance, oui, mais la puissance au service de l'amour. Et dans tout le contexte actuel de tout ce qui nous est dit, tout ce qui nous est parlé sur le Saint-Esprit, on entend beaucoup de choses extraordinaires. C'est vrai que Dieu fait des choses extraordinaires, que nous n'avons pas à les refuser, à nous en méfier. Nous avons aussi à comprendre que Dieu agit aussi, comme dans la caverne, d'une manière douce et légère. Et que ce soit l'un, soit l'autre. Et puis Dieu va révéler une troisième chose à son prophète, c'est même la première qui nous est dite ici, et je relis le texte au verset 5. Un ange toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Ce texte, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi », si vous êtes dans l'Église réformée, vous l'aurez certainement entendu lire au moment de la Sainte Cène. C'est un des textes de la liturgie de Sainte Cène. Et je crois que ce rapport, ce parallélisme est un parallélisme très, très vrai. Où Dieu nous dit aussi à nous, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et la nourriture que Dieu nous donne aujourd'hui dans l'Église, c'est ce pain et ce vin. Signe du corps et du sang du Christ brisé et répandu pour nous. Et au fond, Dieu dit à Élie, mais regarde pas ton expérience passée. C'est vrai, c'est une expérience merveilleuse. Mais regarde au présent et à ce que je te donne ici et maintenant. Et nourris-toi du Christ, parce qu'il y a l'annonce du Christ et de son sacrifice. Nourris-toi de Jésus-Christ, de sa vie de résurrection aujourd'hui. Nourris-toi de ce qu'il veut te donner jour après jour. Car la scène, qu'est-ce que c'est? La scène, c'est le signe de notre pardon, c'est vrai. Nous annonçons la mort du Seigneur. C'est le signe aussi de la victoire du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est le signe qu'il est là, au milieu de nous, par sa résurrection, et que nous pouvons par conséquent affronter les difficultés parce qu'il est là et il nous nourrit. Et il marcha 40 jours et 40 nuits. Et ce chiffre 40 n'est pas là pour rien. Ça fait penser au déluge, ça fait penser à la tentation de Jésus. Nous pouvons affronter la tentation. Nous pouvons même affronter le déluge, s'il y en avait un, nous savons qu'il n'y en aura plus, parce que la Bible dit, mais nous pouvons affronter toutes les tentations difficiles qui sont devant nous, si nous nous nourrissons du Christ, jour après jour, de sa parole, qui nous conduit à Horeb, mais de sa parole dans... C'est juste, là aussi c'est intéressant. Il lui donne cette nourriture pour aller à Horeb, parce que la parole, c'est la parole du Christ. Et c'est le Christ de la parole. Et alors c'est aussi cela que Élie doit comprendre. On ne vit pas d'expérience bouleversante, mais le feu du ciel, il est lié à cette nourriture quotidienne, cette communion avec Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et puis, une quatrième chose, et c'est le verset 14 d'abord, la fin du verset 14 où Élie dit « Je suis resté moi seul » et il cherche à m'ôter la vie. Puis Dieu lui répond « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. » Un texte qui a souvent été cité, notamment au moment de la Réforme. La Réforme, c'est un texte que les réformateurs aimaient bien montrer qu'il y avait toujours de la fidélité dans l'Église, malgré tout, même dans les situations qui nous semblent être les plus désespérées. Je crois que c'est ce que nous avons à redire, à tous ceux qui risqueraient d'être découragés par l'état de l'Église actuelle, n'est-ce pas, monsieur le théologien, il reste toujours 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. On n'est pas tout seul. Et Dieu veut dire à Élie, tu te crois tout seul, mais t'es pas tout seul. Il y a une communauté avec toi. Une communauté importante. Et c'est aussi une des choses que nous avons, que nous devons comprendre, l'importance de la communauté et de la vie communautaire. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais je le crois très profondément, toute la vie dans le Saint-Esprit ne peut être qu'une vie communautaire. C'est-à-dire pour ça que parfois il y a des naufrages dans des expériences sur le Saint-Esprit, parce qu'on veut, vivre personnellement ce qui est communautaire. Chaque fois que l'apôtre Paul parle du don du Saint-Esprit, il le met en relation avec le corps de Christ, c'est-à-dire la communauté. Alors, Élie va pouvoir continuer à marcher, il va se remettre en route, parce que son ministère n'est pas terminé, il va avoir deux choses très importantes à faire. Oindre Jéhu, le nouveau roi, qui va remplacer Achab, et Élisée, qui va succéder à Élie. Là aussi, on pourrait méditer longuement l'importance d'un successeur. Il ne s'agit pas que nos GBU soient florissants pendant qu'on y est, et ensuite, mais qu'un comme Élie, on prépare celui qui vient après. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un cours de cadre. Pour que d'autres, hein, on puisse transmettre ce que nous avons reçu. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, une foi agissante, c'est une foi, oui, qui, oui, je dirais, qui a à sa disposition le feu du ciel. Mais pour cela, il faut d'abord que nos vies soient offertes en sacrifice. Et puis, il faut comprendre que ce feu du ciel, il est lié à la croix de Jésus-Christ. Il est lié à la parole de Dieu. Il est lié à... C'est un feu qui est au service de l'amour de Dieu. Et il faut comprendre que nous avons à nous nourrir du Christ. À vivre et à entretenir cette communion avec Jésus-Christ et à vivre dans la communauté de ceux qui ont reçu le Christ et l'Esprit.